RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr avec la Dream Team Arnaud Valadon, Frédéric Weiss, Félix Gabory. Bonjour messieurs.
Salut
hey
Pierrot.
Guys.
Salut
tout le monde. On appelle ça une Dream Team, on n'est pas bien.
Vous êtes des chercheurs d'or aujourd'hui parce qu'on va parler des Denver Nuggets. C'est que les Nuggets, c'est les pépites d'or.
Oui.
Voilà. Ah bon, c'est pas les petits chercheurs d'or.
C'est pas les petits trucs de poulet.
Peut-être dans le quiz, ça. Les nuggets de poulet.
Ah, j'ai spoilé une question dans le quiz.
Déjà fait une fois, donc peut-être qu'on va pas le refaire une deuxième fois.
Bon, tu serais capable de le refaire.
Je serais tout à fait capable de le refaire. Alors, Denver, qui est une des équipes les plus en forme, qui finit fort, qui a battu les Spurs dans un match remarqué ce week-end. Denver est-il aussi fort qu'en 2023? Il faudra au moins ça pour battre OKC et être champion.
Pour battre Thunder.
Le Thunder. Pourquoi?
Bah, les Thunders.
Les Thunder, voilà. Thunder.
C'est lent. C'est long ça, c'est une blague à la Stephen Brun.
Ouais, donc c'est
il n'est pas là aujourd'hui. Et puis on va faire un débat sur le meilleur joueur du monde. MVP ou pas, Jokic est-il le meilleur joueur du monde? Bizarre ce débat, hein. Bizarre ce trophée de MVP où on ne récompense pas forcément le meilleur joueur du monde. Ça sera passionnant. Et puis la partie historique, vous allez nous parler de ces franchises qui n'ont qu'un seul titre. C'est le cas de Denver, et du coup c'est des franchises qu'on connaît moins, des titres qu'on connaît moins.
Les franchises, on a oublié qu'elles ont été championnes.
Par exemple, c'est vrai qu'il y en a, ça fait une éternité qu'elles n'ont pas été championnes. Le quiz sera consacré aux Denver Nuggets et à Nikola Jokic.
Ok.
C'est bon ?
C'est bon.
T'as révisé ton basket serbe ?
Non.
Ben, t'aurais mieux fait.
Il y a bien de Jokic comme matal, il y a bien de blague et bon.
Oh l'insulte !
Tu vois ?
J'ai un peu révisé le serbe.
Très bien, c'est parti pour les Nuggets.
This team is dangerous.
They got everything.
Curry around his man.
Hey!
Come underneath.
Circus shot!
How about that from Jamal Murray?
Jokic empty, spins off him. Miss it.
Oh! Aaron Gordon! Follow jam!
Jokic. Cam Johnson for three.
Good!
Jokic feed it to Gordon. Gordon for three again!
Jokic catches it, puts up the three.
Count it at the buzzer!
Alors, les Nuggets ont frappé un grand coup en mettant fin à la série victorieuse des Spurs. Ils ont aussi renversé un match qui était très mal embarqué face à Portland. Alors, c'est normal que Denver batte Portland, mais dans un scénario quand même qui confirme une dynamique très positive. Les Lakers décimés, bah Denver vise clairement la troisième place. L'an dernier, il faut s'en souvenir, c'est très important, ils n'étaient pas loin de sortir OKC. C'est l'équipe qui a fait le plus souffrir les champions. Alors, est-ce qu'ils peuvent être champions comme il y a trois ans? Est-ce qu'ils sont aussi forts que l'année de leur titre? C'est la question qu'on se pose dans ce premier débat spécial Denver. Est-ce que tu vois des champions potentiels, Fred? Et est-ce qu'ils sont aussi forts qu'il y a trois ans?
J'ai l'impression qu'ils sont aussi forts qu'il y a trois ans, oui.
Malgré
oui,
les changements qu'il y a eu, oui, le départ de Michael Porter.
J'ai envie de dire grâce aux changements qu'il y a eu. Parce que Michael Porter, moi je pense qu'il avait fait son temps et que c'était important de changer un petit peu. Moi je trouve que l'arrivée de Cam Johnson, même si en début de saison ça a été un petit peu difficile, l'intégration était un peu compliquée, ça a été plutôt bien. Il faut se rendre compte que cette équipe a joué très peu de temps au complet aussi. Hein. On parle beaucoup d'OKC qui a eu des difficultés. Gordon, Christian Brown a mis beaucoup de temps à venir aussi. Même Jokic a été blessé. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de soucis de santé dans cette équipe.
Ils ne sont pas encore au complet.
Il
leur manque Peyton Watson.
Et Peyton Watson, on l'a vu pendant la saison, il a joué parfois à un niveau star. Donc effectivement, ils ne sont pas tout à fait au complet, mais en tous les cas, ça y ressemble beaucoup. Donc tu as un 5 majeur hyper intéressant. Tu as Hardaway qui est sur le banc qui peut apporter. Tu as des remplacements. Valanciunas sur quelques minutes peut être intéressant aussi.
Tu fais souffler Jokic.
Ouais. Et alors tu perds un peu, évidemment. C'est évidemment pas Jokic, mais c'est quand même un joueur cohérent, solide, dur, qui connaît la NBA. Bruce Brown qui peut apporter. Et tu as dit, Peyton Watson, c'est un joueur qui a montré plein de belles choses. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui est au moins aussi forte qu'en 2023, sauf que autour, les Spurs et OKC, c'est peut-être plus fort que ce qu'ils ont affronté en 2023.
Après ce qu'on a vu samedi soir, tu dis que les Spurs, c'est plus fort que Denver.
Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah. J'ai dit c'est peut-être plus fort que ce qu'ils ont affronté en 2023. C'est ça que j'ai dit.
Ah oui, d'accord.
Parce que
la concurrence était un peu plus faible, entre guillemets. Faible, c'est jamais faible.
Mais une question comme ça, il faut qu'ils soient plus forts qu'en 2023 pour être champion.
Exactement. Mais effectivement, on a vu quand même un match incroyable Nuggets-Spurs.
Il change beaucoup de choses, ce match, pour la fin de saison, non? Psychologiquement, non.
Non, il change rien.
Pour le titre d'MVP, il change des choses.
Pour nous,
on va parler.
Est-ce que pour nous, il change des choses? Oui, un petit peu, parce qu'on se dit, bah, finalement, on avait peut-être un petit peu oublié trop vite.
Finalement, la deuxième force à l'Ouest, c'est qui?
C'est San Antonio. Oui, mais
c'est différent entre la régulière et les playoffs.
C'est ce que je voulais dire.
C'est pas le même monde.
Il y a une équipe qui connaît le chemin, il y a une équipe qui a déjà fait. Et je demande à voir, mais sur le papier, les deux se tirent la bourre largement quand même, San Antonio et Denver.
Félix.
C'est assez incroyable quand même de voir le classement de Denver après cette saison régulière qui a été hyper difficile pour eux. On parlait tout à l'heure d'Aaron Gordon qui est hyper important. Il joue 34 matchs cette saison. Il joue même pas la moitié de la saison. Même Jokic a loupé énormément de matchs, tu l'as dit Fred. Et malgré tout ça, malgré toutes ces absences, ils arrivent quand même... ils vont sûrement avoir le troisième spot parce que les Lakers en plus vont descendre. Donc c'est quand même assez remarquable comme saison régulière. Mais tu l'as dit Pierrot, il faudra être meilleur qu'en 2023. Parce que là je m'étais noté le parcours de playoff en 2023. Donc fallait aller le chercher le titre. Mais ils sortent Minnesota au premier tour, ils sortent Phoenix au deuxième tour. Après ils sortent les Lakers qui sweep en finale et Miami en finale NBA qui avait fait la grosse surprise. Et quand on a peut-être pas encore les classements en tête de parce que c'était il y a 3 ans, Minnesota c'était la 8e de conf, Phoenix était 4e, les Lakers étaient 7e de conf et Miami qui affrontent en finale NBA était 7e de la conf.
Je viens de regarder le top 4 parce que je m'étais dit c'est quoi la conférence Ouest cette saison-là.
Sacramento,
Memphis avait fait 2e de la conférence et Phoenix 4e. Et là on est
Phoenix avec Kevin Durant quand même.
Mais qui est fait quatrième avec 45 victoires.
Non, pas à l'époque, c'est il y a 3 ans.
C'est le Phoenix, presque post-finale NBA.
C'est quoi l'équipe de Phoenix 2023?
Bah, à l'époque,
c'était Devin Booker.
C'était Booker, Ayton. Est-ce qu'il y avait encore Chris Paul?
Je pense qu'il y avait pas KD.
C'était l'équipe qui sort 2 ans avant qui avait été en finale NBA contre les Bucks.
Ayton, Booker, si, il y a KD.
Ouais, quand même.
Il y a KD dans cette équipe. Il était arrivé. Chris Paul était encore là.
Donc c'est quand même une grosse équipe de Phoenix.
Oui, mais c'était, tu vois, 4e de la conf.
45
et quand
victoires.
Tu regardes dans tout le parcours des playoffs, ils n'ont jamais affronté une équipe. Mmh. Ils n'ont pas eu de la chance parce qu'en fait, ces équipes-là, par exemple, Miami, ils avaient coupé les têtes de tout le monde dans la conférence Est et personne n'avait réussi à faire ce que fait Denver en finale, c'est-à-dire les battre. Mais voilà, tu n'avais quand même aucune équipe du podium sur la conférence, des deux conférences sur cette campagne
de playoffs. Et tu les vois plus forts qu'il y a 3 ans ou pas?
Oui,
Jokic est peut-être encore plus fort.
Jokic est encore meilleur. Jokic est au sommet de son art. Moi, je rejoins aussi Fred sur Cam Johnson. Je trouve que beaucoup de gens peuvent un peu manquer de respect quand tu regardes le pedigree entre Cam Johnson et Porter Junior. Porter Junior est potentiellement un joueur intrinsèquement meilleur que Cam Johnson, mais je pense que dans un collectif, dans toute la polyvalence,
c'est un arroseur, un Porter Junior.
Ouais, puis en plus c'était un gars qui était pas fiable physiquement. Physiquement, il était très fragile.
Et
donc ils ont
pris dans la tête aussi. Hein,
c'est quand même un mec qui leur a apporté très vite quelque chose. C'est quand même un joueur qui a compté énormément dans les perfs de Denver. Hein.
Oui, parce que justement sur ce run de playoff, il est apte, il est là et il fait son meilleur passage à Denver, c'est sur ce run de playoff là. Et donc du coup ça va jusqu'à la bague. Mais c'est pas un gars hyper régulier, hyper fiable. Tu l'as vu dans les saisons d'après où Porter Junior se blessait beaucoup, était pas toujours au rendez-vous. Alors que là t'as Cam Johnson, puis t'as aussi un. Moi j'adore Tim Hardaway en sortie de banc.
Ah bon, en sortie de banc c'est magnifique. Je trouve Tim Hardaway c'est un ajout incroyable. Tim Hardaway en sortie de banc, évidemment.
C'est magnifique en pistolero comme ça, sortie de banc.
Arnaud, c'est plus fort qu'il y a 3 ans.
Ils sont aussi forts offensivement. Défensivement, j'ai un petit doute. Le defensive rating est moins bon. Ils ont le même defensive rating que les Lakers. Donc quand on critique la défense des Lakers...
Ouais. Ils n'étaient pas très bons, j'ai regardé en 2023. En régulière, c'était le 15e.
C'était moyen, oui. C'était moyen, ils étaient, aussi, je crois, à 115. Et là, ils sont ils étaient à 115. Et là, ils sont à 118. Donc ils sont un peu moins bons. Ils existent parce qu'ils ont une attaque absolument formidable. Alors, ils arrivent aussi à générer un peu de jeu rapide, mais ça se repose sur Jokic, ça se repose sur Jamal Murray.
Voilà, on n'a pas parlé de Jamal Murray.
Jamal Murray, qui est un
niveau stratosphérique, surtout.
Il est trop fort. J'ai l'impression qu'il est plus fort. Déjà qu'il était fort en 2023, il est encore plus fort. Et c'est peut-être
plus fort, plus vite. C'est-à-dire qu'il a été bon dès le début de saison et ça change beaucoup de choses pour lui.
Et peut-être un petit peu moins blessé, même s'il est souvent toujours day-to-day, toujours très incertain avant les matchs. Mais il est présent. C'est évidemment, je pense, une des clés s'il y a une série San Antonio Spurs Denver entre Fox et Jamal Murray. On a vu quand même samedi soir qu'il n'y avait pas photo.
C'est un match après.
Mais tu sais déjà qu'avant le match, sur le papier, tu te dis... Bon, moi je prends Jamal Murray tous les jours. Hein. Je sais pas s'il y en a un qui prend Aaron Fox à cette table. Qu'il se dénonce ou qu'il se taise à jamais.
Exactement. qui part maintenant.
Moi, je serais pas aussi catégorique que vous sur entre les deux. D'Aaron Fox, on a tendance aussi à oublier ce qu'il a fait à l'époque des Kings.
Oui, mais là,
tu parlais des Kings en 2021,
oui, dans
qui
le collectif
sur le podium de l'Ouest, c'était emmené par D'Aaron Fox.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière
le collectif des Spurs? Il a son influence a considérablement baissé, D'Aaron Fox.
Oui, mais alors là, c'est pas de sa faute. Vraiment, je vais le défendre.
Oui, mais sauf qu'une vraie équipe, un vrai joueur, les qualités individuelles ne pâtissent pas d'un élan collectif. C'est ça le souci qu'on a avec D'Aaron Fox.
T'as moins le ballon en main. Il y a Victor qui a le ballon en main. Il y a Cassel, il y a Harper.
Vassal,
le ballon est beaucoup plus partagé. Hein, donc c'est un peu
oui,
logique.
Mais lui, on lui demande d'être clutch. Et quand même, il l'est moins. Quoi.
Bah, il n'a pas été sur ce match. Et c'est vrai
mais il a été sur la saison. Moi, sur la saison, j'ai plein de matchs en mémoire où, dans les 2-3 dernières minutes, il met des shoots ultra importants. Il finit le match qu'à 13 ou 14 points, mais il t'a mis 5 points dans les 2 dernières minutes.
Après, Jamal Murray, il en met aussi.
Non, mais juste moi, catégorique sur vous, sur le fossé entre les deux. Pour moi, c'est deux très très forts joueurs et deux super lieutenants.
C'est clairement un des mecs les plus sous-cotés de la NBA, Jamal Murray, non? Est-ce qu'aujourd'hui...
Depuis le titre de 2023.
Est-ce qu'il est très loin, par exemple, d'un Jaylen Brown que Fred adore à juste titre? Très loin?
Bah, il est loin, quand même.
Enfin, on va pas prendre le même poste.
En plus, Jaylen Brown, c'est un mauvais exemple, parce que défensivement, il peut être exceptionnel, et en plus, il est à 30 points de moyenne.
Non, mais je prends volontairement la comparaison, parce que c'est un numéro 2.
Bah, c'est numéro 1, Jaylen Brown. Bah, je ne comprends pas. Ça se tape avec Tatum, je suis d'accord avec toi, c'est de numéro 2. Ça se tape un peu plus.
Non, mais on a vu l'un comme l'autre en l'absence de Tatum et en l'absence de Jokic, ils ont été phénoménaux.
Oui,
les deux.
C'est vrai.
Ouais, Jamal Murray est moins fort défensivement, il a moins ce côté two-way quand même. Mais il est pas. En fait, il y a eu une bascule dans sa carrière avec 2023 dans l'image qu'il a auprès du grand public. Avant, on disait que c'était un peu un choker, un mec qui était pas fait pour emmener une franchise loin. Et dans un rôle de super lieutenant 2023, il avait mis un peu tout le monde d'accord. Et depuis 2023, ça a changé un peu la vie sur lui.
Ça a évolué dans la bulle aussi déjà. Hein,
où il était carton sur carton.
Et c'est vrai que ça avait un petit peu baissé après, et le titre lui a redonné un petit peu.
Il n'y a que Arnaud qui voit Denver un tout petit peu moins fort qu'en 2023. Donc.
Plutôt sur l'aspect défensif, et de toute façon, vous l'avez clairement dit, aujourd'hui, pour aller à l'Ouest en finale NBA, il faudra probablement passer sur les Spurs et passer sur le Thunder.
Voilà.
Et derrière, tu vas retrouver une franchise, peut-être Boston, peut-être Détroit, s'il récupère bien tout le monde à 100% aussi.
Kekuningam est apparemment questionable. Il a été questionable sur le dernier match.
Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis en plus, il gère bien à Détroit. On met pas mal de monde au frais.
Bah,
tranquille.
Ils sont premiers.
Ça peut être Boston hein, quand même.
Ça peut être Boston. Ça peut être les Knicks aussi. On n'est pas à l'abri.
L'importance de la première place à l'Ouest est colossale. Là. Vu la configuration,
2 et 3, c'est quasi un cadeau empoisonné. Parce que même si les Spurs passent, Denver, ça va aller sûrement au moins peut-être en 6 matchs, voire
en 7
matchs.
En fait, pour Denver, ça ne change rien d'être 3 ou 4. Il faudra qu'ils se cognent au KC les Spurs.
Oui.
Alors celui qui finit premier, bon, ça va être au KC a priori, risque de croiser en demi-finale un adversaire moindre.
Ah, tu fais 4-0-4-1. Tu fais 4-0-4-1 en demi-finale de conf, t'es tranquillement en train de siroter ta limonade.
Après, attention, parce que potentiellement, t'auras du Houston, du Minnesota en demi de conf.
C'est pas cadeau non
plus.
Oui,
c'est pas 4-0-4-1 facile non plus.
En face, ils vont s'arracher la tête.
Houston, je crois pas du tout. Minnesota, peu.
Alors, on va passer au deuxième débat et on revient sur la course au MVP.
Jokic is still the best player in the game.
Jokic in the power. Here it goes. Got it. Denver has won. Turnaround jumper is good by Joker.
High basketball IQ.
Very high basketball IQ.
Jokic. Oh, behind the back. Oh, what a beautiful find. Jokic.
Nikola Jokic is unreal.
Jokic faded away. Ridiculous.
Oh, my.
Alors, donc la course au MVP a connu un tournant samedi lors du match entre Denver et San Antonio. On a vu un duel fantastique entre Wemby et Jokic, mais le Serbe a été plus clutch dans le Money Time. Alors, il n'aura peut-être pas ce titre de MVP. Est-il malgré tout le meilleur joueur du monde, Monsieur Valadon? On commence par toi.
Moi, j'ai eu peur, parce que le Vice, tu vois, c'était pas loin. Je préfère que c'est toi qui commence.
Quand tu aligne pour la deuxième année de suite une saison en triple-double. Alors vous allez me dire, Russell Westbrook l'a fait, mais bon, il faut voir aussi un peu le pourcentage de tir. Il a été MVP. Ça veut dire que vous êtes capable de ne pas donner le titre de MVP à Nikola Jokic les deux années où il fait une saison en triple-double. Ce qui est quand même incroyable, parce que tu prends Westbrook incroyable. Et derrière, c'est Oscar Robertson sur une saison en triple-double. Puis c'est un triple-double, mais d'une propreté, d'une limpidité. Quand je te dis, voilà, c'est pas Westbrook qui shoot à 42-43%.
À 10 matchs de la fin, il était déjà sûr de finir en triple-double.
Ce qui est fou, il est incroyable. Tu te dis, Non, mais à un moment donné, il va peut-être avoir un coup de moins bien et il continue avec sa nonchalance légendaire, avec sa vision incroyable là contre les Spurs. Il te balance la balle, tu te dis non, mais c'est pas possible et ça fait filoche. La vision de jeu.
Face à Wemby en défense, quand même, hein, en plus, ce qui ne gâche rien.
Bah, oui, voilà, avec les longs segments de Wemby en dissuasion. Je vois Fred. Fred, tu fais.
Non, j'écoute, je vous écoute.
Et c'est plus jamais le patron. Moi, je trouve qu'il mériterait. Après, si on me demande, je vote évidemment Victor. Parce qu'il faut aussi que nous, on soit derrière notre Français pour avoir un Français MVP. Mais Jokic, oui, meilleur joueur du monde. Il est juste incroyable, tellement beau à
toi,
avoir
c'est
joué.
C'est le meilleur joueur du monde.
Bah oui, je le mets au-dessus de Luka. C'est fou ce qu'il fait. Parce que c'est un pivot, parce que le gabarit, parce que tout. Enfin, il fait des choses que les autres ne font pas. Shai le fait des choses de manière parfaite. Mais j'allais dire, des choses
déjà
simples,
vu,
c'est
presque.
Dur. Parce que quand tu le vois prendre son pull-up, qu'il est tellement gainé, c'est tellement de travail. Mais Jokic fait tellement des choses extraordinaires. Ah,
pour le coup, Jokic est moins gainé et il fait des
mais
trucs
oui,
extraordinaires.
Voilà. Non, mais c'est peut-être ça qui est c'est vraiment extraordinaire. C'est au-delà de tout sens commun, Jokic.
Bon, on est d'accord, Arnaud. Félix.
Ça, à quelle question ?
À quelle question est-il le meilleur joueur du monde, quel que soit le MVP ? Qui que soit le MVP, je veux dire.
Bah déjà MVP et meilleur joueur du monde, c'est deux trucs quand même complètement différents en termes.
Bien là le débat.
Bah oui, mais oui, mais pour
c'est
moi.
Bien
ça,
là le débat.
Moi, ça, toi, ça a l'air de te titiller un peu que le meilleur joueur du monde soit pas le MVP, mais en fait c'est normal, ça a toujours été comme ça, c'est les critères. MVP, c'est t'as été le meilleur sur la saison, sur l'exercice écoulé et le bilan collectif. Rentre énormément en compte. Et malheureusement, Jokic est un petit peu plombé dans son duel face à Shai par rapport à ce bilan collectif parce qu'il a 10 victoires de moins.
Sauf que quand il n'est pas là, oui. Les Nuggets souffrent plus que quand Shai n'est pas là.
Oui, mais de tout temps, dans les critères du MVP, ça a toujours été souvent le meilleur joueur de la meilleure équipe. Alors on peut le déplorer, mais dans le système de vote, ça a toujours été ça dans la tête des votants. Mais il n'empêche que dans le débat de meilleur joueur du monde, je ne mettrai pas encore une fois en fossé énorme. Entre Shai et Jokic, parce que là où Jokic c'est extraordinaire, c'est du jamais vu ce qu'il est en train de faire. Il a un côté irréel dans ce qu'il fait, dans le joueur qu'il est. Il y a quand même l'aspect défensif qu'il a en moins par rapport à Shai Gilgeous-Alexander. Et si on doit parler de meilleur basketteur du monde, évidemment, on est obligé de prendre les deux côtés du terrain. Victor Wembanyama l'a très bien rappelé il y a très peu de temps dans le débat du MVP. C'est 50% défensivement et 50% offensivement. Il y a deux côtés du terrain. Et même si ce n'est pas un plot en défense, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne vois pas un immense fossé entre Shai et entre Jokic.
Mais qui est le meilleur joueur du monde pour toi actuellement ? C'est Shai ?
C'est compliqué parce que encore une fois il y a cet aspect défensif que Shai a en plus. Mais après quand je vois Nikola Jokic faire la saison qu'il est en train de faire, quand je le vois son match contre les Spurs où en plus on parle souvent de sa nonchalance, mais contre les Spurs il était tellement déter Nikola Jokic. Je l'ai vu même aller faire des contres. Je l'ai vu faire des retours.
Il se bat avec ses armes.
Faire des allers-retours.
Gabarit, en fait.
Après son contre là, qui met, je sais pas si vous avez l'image, il met un contre. Et après, je l'ai vu sprinter pour aller en attaque. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Mais il est formidable. Mais malheureusement, ce qui joue contre lui, c'est que c'est l'aspect. En fait, on s'est habitué.
Oui, mais c'est un très mauvais argument. En fait, c'est pour ça que ça me rend fou.
Oui, mais en fait, malheureusement, on s'est habitué.
Pour moi, c'est un très mauvais. C'est le pire argument qui peut.
Mais c'est
être.
Pas mon argument à moi.
Non, mais
juste
sais bien.
Dans l'imaginaire
c'est là
des
où
gens.
Ça, des fois, ça me saoule un peu ce cirque du MVP. Là.
Il a banalisé l'extraordinaire. Mais il a eu quand même son moment de gloire il y a quelques années. Nikola Jokic, on a passé des mois, des années. À souligner à quel point c'était extraordinaire.
Autre très mauvais argument, il a déjà eu trois fois été MVP.
Ouais.
Ouais, mais Messi et Ronaldo, combien de fois ?
Mais tu vois,
c'est normal si c'est les meilleurs.
Par rapport à Wemby, il souffre un peu de cet aspect nouveauté parce que Wemby, il est en train de faire quelque
encore
chose.
Encore un très mauvais argument, en fait. C'est ça.
Et je te parle encore, c'est pas les miens.
Ça me titille, ça me rend
c'est
fou.
C'est pas mes arguments, moi, Pierrot.
Oui, je sais bien, mais c'est peut-être ce qui va faire la différence.
Ouais.
Fred.
Alors j'espère être un peu plus concis que Félix, parce que j'en peux plus.
Il est impatient. Hein.
Non, mais j'ai
vraiment. N'hésite pas à couper si tu veux, Fred.
Moi, c'est toujours.
J'ai jamais fait de cut dans sa carrière.
Je ne coupe jamais. C'est fini. On m'a dit de ne pas couper la parole aux gens, je ne le fais plus. Donc, juste pour revenir à un truc, il faut quand même se rendre compte qu'on va avoir dans le top 3 MVP, sans doute, le premier, le deuxième et le troisième à l'ouest. ce qui est quand même assez fantastique en soi. Donc ça veut dire que finalement ils sont pas si loin que ça, même s'il y a quand même des matchs d'écart, et notamment entre Denver et les deux premiers, il y a quand même des matchs d'écart. Je vais te faire une réponse assez simple. En fait, je vais te dire, le meilleur joueur des deux côtés du terrain, c'est Victor Wembanyama dans le monde. D'accord ? Ensuite, le meilleur joueur de la meilleure équipe, et donc un joueur exceptionnel, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et si tu me demandes qui est le meilleur joueur de basket pur, dans le sens où moi je l'entends, c'est Nikola Jokic. Mais, je suis d'accord, le MVP, c'est aussi celui qui amène son équipe à être premier. Alors tu vas me dire, celui qui a le plus d'influence sur le jeu de ces trois, c'est soit Victor, soit Jokic. Mais je pense que Jokic en a même beaucoup, un petit peu plus que Victor. Donc si moi je devais choisir un MVP,
Jokic est le moins bien entouré finalement.
Voilà, mais c'est ça. Donc ça veut dire que je pense que Shai est mieux entouré.
Oui, clairement. Shai, oui.
Et je pense que quand Victor n'a pas été là, ça a gagné des matchs aussi du côté des Spurs. Je pense que c'est plus compliqué pour les Nuggets de gagner quand Jokic n'est pas là que les deux autres équipes.
Il y a 5 minutes, on est en train de dire que Jamal Murray était largement...
Jamal
Murray, oui, mais c'est pas
Aaron toujours... Johnson, il est bon. Christian Braun, il fait une super saison.
Tim Hardaway, sorti de bon.
Il est bien entouré, mais en valeur intrinsèque, je suis d'accord, tu le mets un peu en dessous de Casey. Tu mets en dessous de Casey. Et les Spurs, tu peux peut-être pareil, mais tu sais que les Spurs, il y a un sailing plus haut à venir.
Exactement. Donc tu sais qu'il y a vraiment une marge de progression pour les Spurs. Je suis d'accord. Donc, si tu me demandes quel est le meilleur joueur du monde, c'est Nikola Jokic. Et pour moi, que Shai soit MVP, ça ne me pose aucun problème. Parce que, je te l'ai dit, être le meilleur joueur de la meilleure équipe, bah, ça ne me choque pas.
Ouais, mais tu vois, les discussions de ces dernières semaines, c'était, on parlait ni de Jokic ni de Doncic. Et quand on a fait l'épisode là-dessus il y a quelques semaines, moi, je vous ai dit, je ne comprends pas. Et je suis content que la fin de saison se déroule comme elle se déroule. Sauf pour le pauvre Doncic qui, malheureusement, est blessé. Mais je ne comprends pas comment, quand tu as un tel niveau, mais je veux dire, Shai et Victor méritent d'être dans la discussion.
Doncic qui va demander une exception. Hein.
Comment ?
Doncic qui va demander une exception quand même.
Pour être éligible. Bon, mais ce ne sera pas lui.
Ça ne sera pas lui, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, sa saison se termine...
Mais en fait, c'est-à-dire qu'on a des profils très différents. Et donc c'est très bien en fait, c'est hyper passionnant.
Non mais c'est surtout que
on va pas réduire ce débat à il y en a un qui l'a déjà eu donc il a moins de chances de l'avoir.
Mais c'est pas ça.
On va pas réduire ce débat non plus à il est pas premier donc il peut pas l'avoir. On va pas réduire ce débat à les Lakers c'est une équipe de merde donc Doncic ne peut pas être le meilleur joueur du monde. Non, il faut regarder les quatre et puis après avoir un vrai débat technique, un vrai débat basket, il faudrait dans l'idéal se débarrasser de tous les arguments parasites
qui sont
du storytelling, c'est-à-dire on veut un Américain...
On veut le plus jeune MVP de l'histoire.
Juste qui est le meilleur basketteur du monde.
En fait, c'est difficile de juger Shai parce que sur le début de saison, il faut se rappeler quand même qu'il ne jouait pas les quatrièmes quarts-temps. Parce que son équipe avait tellement d'avantages et c'était tellement facile que pour lui qu'il ne jouait pas les quatrièmes quarts-temps. Donc ses statistiques sont tronquées aussi par rapport à ça. Ouais, ce qui n'est pas arrivé à Nikola Jokic.
Tel guarde à 55% de tir que l'an dernier, par exemple. Victor, c'est pareil. Tu peux regarder les ratios par minute.
Alors, c'est pas pareil.
Tu peux regarder les money time. Voilà,
mais c'est pas pareil.
Tu peux regarder les cartons, les 50, les 60 points.
On peut pas dire la même chose. On peut pas dire que quelqu'un est pas clutch s'il joue pas le match clutch, en fait.
Et ben, c'est pour ça que ça lui fait un handicap.
Ben, ça lui fait un handicap, mais en même temps, tu dis que sur le temps qu'il était sur le terrain, c'était extraordinaire ce qu'il a proposé aussi.
Et tu le prends aussi en compte.
Donc, honnêtement, c'est très difficile. Si moi, je devais choisir en tant que Français, ça serait Victor. Et en tant que pivot, ce serait Jokic.
C'est une telle erreur. Sur le MVP, l'élection la plus serrée de l'histoire. Je pense que ça va se jouer, mais alors à rien. Parce qu'il va y avoir un nombre incalculable de première, deuxième, troisième place.
Je crois pas. Moi, je pense Victor. Réellement que ça sera Jokic.
Shai est d'assez loin, oui.
Pour moi, il y aura presque pas de débat.
Mais Jokic, avec la fin de saison qu'il est en train de faire,
on est d'accord.
Il récupère des points.
On est d'accord que Victor a perdu très gros sur la fin de match contre Denver.
Il a pas gagné gros.
Et c'est normal. C'est comme ça que ça doit se déterminer.
Jokic est monté. C'est pas lui qui a perdu, c'est Jokic qui est monté.
Puis Victor, là, il est en train de perdre aussi parce que là, il s'est blessé aux côtes la nuit dernière.
Il joue au moins un match.
Donc, même s'il arrive à jouer un match, il aura quand même manqué la dernière semaine.
Oui.
Donc,
il va pas impacter les esprits sur
exactement,
la dernière semaine.
Donc, je pense que là, ça va jouer entre Shai et entre Jokic. Mais il n'y a aucun scandale que ça soit Shai.
Non, il n'y a aucun scandale. Mais le fait qu'il parte de loin,
on banalise aussi ce que fait Shai.
Moi, je trouve qu'on banalise les 83 points de Bam Adebayo.
Tapiro, trouve pas qu'on banalise aussi ce que fait Shai. On peut avoir le même débat
exactement.
Non, pas du
tout, puisqu'il va avoir le titre deux années de suite, là où il est le meilleur.
Oui, mais tu vois, même dans le débat de meilleur joueur du monde, t'as envie de même pas le mettre dans la discussion.
Mais Non, je le mets dans la discussion. J'ai l'impression que c'est joué d'avance. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on fait une erreur colossale. C'est de s'être habitué à ce que fait Jokic. On va le regretter quand il sera plus là. Hein. Non, enfin, le regretter. On ne le verra plus jamais.
Tu sais ce qui est drôle, c'est quand
plus jamais on le verra.
Quand il fait 15 points, 13 rebonds, 10 passes,
c'est un petit match. Tu te rends compte.
C'est moyen quand même.
Mais c'est dément.
Mais je suis complètement d'accord.
C'est dément. C'est complètement dément. Regardez sa ligne de stats cette nuit.
Mais c'est dément.
C'est une folie. Jamais personne n'a fait ça. Le mec est meilleur passeur et meilleur rebondeur. Qui a déjà fait ça et qui le refera? Personne ne refera
ça. Et surtout
ça.
Un pivot.
Et c'est, pivot.
C'est extrêmement
non, mais c'est incroyable en fait.
Non, mais moi, tu prêches à converti.
Alors que Shai, qui est un joueur extraordinaire, il est dans des standards de basket plus classiques. Alors, il est le meilleur dans
ces standards-là. Une exécution parfaite.
Qui, en fait, c'est-à-dire que si tu n'as pas des phénomènes comme Victor ou Jokic qui sont des extraterrestres l'un et l'autre à leur manière, bon, Shai,
si
il est
pas les arbitres
5 fois de suite, il n'y a aucun souci et c'est absolument normal. C'est juste que je pense, moi j'estime qu'il fait des choses, il fait parfaitement les plus belles choses d'un basketteur. Et les autres, ils font des trucs qui sont inimaginables. C'est-à-dire que chaque nuit, tu ne sais pas ce que va te sortir Victor et tu ne sais pas ce que va te sortir Jokic. Il y a le shoot qu'il met sur la truffe de Victor. C'est, moi, je trouve ça exceptionnel.
Ce shoot est extraordinaire.
C'est parce que de l'autre côté, tu as des shoots plus faciles dans le même match qui sont ratés. Deux par Fox, un par Victor. Donc, oui, moi, je suis fasciné.
En fait, tu prêches à convertir, hein, vraiment. Mais je pense que c'est joué malheureusement.
Mais il finira deuxième. Et ça, c'est pas de sa faute. C'est la faute de la concurrence et des critères du MVP.
Mais en fait, c'est exactement la même question de savoir si Denver est plus fort ou moins fort qu'avant. En fait, la concurrence est tellement forte aussi que tu peux aller allègrement sur Shai aussi.
Puis tu vois, Pierrot, sur le nombre de titres de MVP à la fin de la carrière. On s'en fichera qu'il en ait 3, 4 ou 5. On regardera ses bagues.
Je suis pas si sûr.
Moi, tu vois, genre, je vais beaucoup plus. Moi,
je sais que Kobe n'en a qu'un. Hein.
Ouais, tu vois, quand on parle de la carrière de Michael Jordan, de LeBron, de Kareem Abdul-Jabbar, on se souvient jamais trop du nombre de MVP qu'ils en ont. À partir du moment où ils en ont 3, 4, 5, au bout d'un moment, on s'en fiche, on regarde les bagues. Donc c'est aussi ça qu'on regardera à la fin de la saison de
Jokic. Ça reste le plus important.
Le plus important, c'est les bagues. C'est les bagues de
champion. Oui, ça reste le plus important, les bagues. On est entièrement d'accord. Mais bon, vu justement l'importance donnée par les Américains à ce trophée de MVP, ils pourraient faire différemment. Moi, je pense. Hein, ça serait plus intéressant, en fait. Ça serait plus basket. Voilà. C'est tout. On avance.
C'est tellement subjectif.
C'est tellement subjectif, je suis d'accord.
It's over. The long wait is over. After 47 years, the Denver Nuggets can finally call themselves NBA champions.
Terry to Nowitzki puts up the three. Puts it in.
The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions. The Cavaliers are NBA champions. The emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown.
Alors, dans cette partie historique, là, on va vraiment apprendre des choses parce que on a décidé d'aller dépoussiérer un peu les livres d'histoire en parlant d'une franchise qui a eu un titre de champion. Comme Denver. Denver faisait partie de ces équipes jamais titrées. Et puis donc, Jokic a changé tout ça. Et bien, il y a pas mal finalement de franchises qui ont un seul titre et qui ensuite n'ont pas réussi à confirmer. Du coup, c'est des histoires qu'on connaît peu. On va démarrer, attention, par le titre de Washington en 1978.
Est-ce que je peux faire une entorse et demander à Félix de démarrer parce qu'il a pris la saison d'avant?
D'accord.
Pour que ce soit chronologique. Et ben, si tu n'y vois pas d'objection.
Portland de 1977.
Ouais, parce que récemment, dans un podcast sur les Spurs, on avait parlé d'une stat dans un débat. On essayait de savoir si San Antonio pouvait être champion dès cette année, après avoir loupé les playoffs l'année précédente. Et on avait vu qu'il n'y avait que trois équipes dans l'histoire qui l'avaient fait. Les Lakers en 2020, les Celtics en 2008. Et donc, les Portland Trail Blazers en 1977. Donc, on va se pencher sur cette équipe des Blazers qui est une certaine anomalie de l'histoire. Donc, la saison 76-77, c'est la première saison de la fusion entre la ABA et la NBA. Les champions en titre, c'est les Boston Celtics. Pour changer, c'est un peu inévitable à ce moment-là. Et les Blazers, eux, ils restent sur une saison plutôt moyenne avec 37 victoires et 45 défaites. Pour la saison 76-77, les deux gros changements effectifs, c'est l'arrivée du coach Jack Ramsey qui arrive de Buffalo, qui était était en ABA, et de Maurice Lucas, qui était un puissant poste 4 qui tournait en 15 points 10 rebonds, qui était du côté de Kentucky en NBA.
On sort des blases que personne ne connaît.
Mais Maurice Lucas, c'était son surnom, c'était l'enforceur, Pierrot. Donc ça,
ça
donne une idée de son profil. Bah, il enfonçait les gens, quoi. C'était,
c'était un peu Fred Weiss.
Sinon, l'équipe s'articulait autour de la star. Là, tu vas connaître Pierrot, Bill Walton. C'était une sorte de Jokic avant l'heure dans ce rôle de passeur génial au poste de pivot. C'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en parler.
L'idole de Fred.
L'idole de Fred. Et donc c'était aussi une intéressant d'en de parler Fred. Dans ce podcast spécial Nuggets. Sinon, autour de Bill Walton, il n'y avait aucun nom ronflant, que des roleplayers comme le meneur Lionel Hollins. Là, pareil, tu vas me dire si tu connais Pierrot.
J'ai
mais et l'ailier couteau suisse Bob Gross. Donc voilà, c'est pour l'effectif. La saison régulière est plutôt bonne pour Portland. Il termine avec 49 victoires pour 33 défaites. Donc ça fait 12 victoires de plus que la saison d'avant. C'est un bon pas trop mal en termes de victoires. Et en play-off, la machine va peu à peu se mettre en marche. Au premier tour, qui se joue à l'époque au meilleur des trois matchs, ils sortent les Bulls 2 victoires à 1. Au deuxième tour, ils sortent Denver 4 victoires à 2. En finale de conf, ils sweep 4-0 les Lakers de Kareem Abdul-Jabbar, qui était alors double MVP de saison régulière et qui était au sommet de son art. Et donc là, on arrive au final NBA contre les Sixers, qui était le meilleur bilan de la saison régulière et qui était emmené par un certain Julius Erving, qui était en feu total sur ses playoffs, qui était le meilleur marqueur des playoffs. Et la finale NBA, elle commence très mal pour les Blazers. Ils sont menés 2-0 après les deux premiers matchs. Donc là, on se dit que la logique va être respectée, que la marche est trop haute pour Portland à cause du manque d'expérience et que les Sixers, ils vont tout droit. Et là, on a une bascule improbable. Portland, qui était mené 2-0, renverse tout et gagne les quatre matchs suivants pour devenir champion NBA en gagnant 4-2. Au match 6, pour clôturer la série, Bill Walton est au sommet de son art avec une ligne de stats incroyable. Donc sur le match 6 pour les Sacrés, il est à 20 points, 23 rebonds, 8 contres et 7 passes. On n'est pas loin d'un quadruple double exceptionnel. Mais le pivot, c'est loin d'être le seul parce que la force de Portland, c'est avant tout un collectif magnifique. Et c'est Julius Erving en personne, donc le finaliste malheureux, qui a résumé le mieux la chose après la finale. Il a dit, je cite, « Le basket est un sport qui se joue à 5 et les Blazers le pratiquent comme s'ils l'avaient inventé. » C'est pas mal quand même comme petite phrase sur une équipe qu'on connaît
pas du Gary Lineker, mais ça ressemble.
Derrière, on se dit que ce basket ultra collectif autour d'une star comme Bill Walton va rouler sur la ligue pendant des années, mais cette équipe-là ne retournera plus jamais en finale NBA. Ils ne passeront même jamais mieux qu'un deuxième tour des playoffs dans les années qui suivent, notamment à cause du corps trop fragile de Bill Walton, qui connaîtra en tout 4 saisons blanches avant de prendre sa retraite 10 ans plus tard. Et c'est ce qui participe à rendre ce titre encore plus mythique, parce que personne ne l'avait vu venir. C'était une sorte de parenthèse enchantée pour une franchise qui, derrière, va quand même sacrément manger son pain noir.
C'est un vrai espoir pour Joel Embiid. Alors, attends, je pense qu'il y a une erreur dans ton récit. Oui. Tu nous as dit qu'ils ont sorti les Bulls au premier tour.
Oui.
Ce qui me semble impossible. Si c'est pas les Bullets plutôt, non ?
J'avais les Bulls.
Ah bah, Bullets non plus, pas possible.
Non, c'est pas les Bullets.
Bulls, c'est à l'est quand même.
J'avais les Bulls. Je vais vérifier parce que sur Basket Ref dans le truc,
peut-être
c'était les Bulls.
Il y a des changements de.
Alors il y avait des problèmes de compte parce que tu vois, moi les Spurs sont à l'est.
En fait, c'était
77-78.
De ce que j'ai vu, c'était des divisions. Il y avait 4 divisions.
Okay,
en fait.
Peut-être que le tableau n'était pas fait est-ouest à l'époque.
Possible.
Ah, vérifier.
Je vais vérifier. Je te dis ça juste après.
Tu nous écoutes vraiment.
Bah, c'est le but. Moi, je connaissais pas du tout l'histoire de
Portland, Denver. Portland, Los Angeles et Philadelphie, Portland en finale NBA.
Okay, donc c'était pas
un système de division un peu chelou. Okay.
Alors à toi Arnaud, donc l'année suivante, c'est Washington.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Il fallait bien du Charles Aznavour pour vous dire que Washington a été une équipe de play-off, a été une équipe championne NBA en 77-78. Ils ont fait finale en 1975, perdu contre les Warriors de Rick Barry. Et donc, je vais vous parler de cette équipe qui marche bien dans les années 70 avec un entraîneur, Dick Motta, qui a ensuite entraîné les Dallas Mavericks. Il fait partie du top 10 des coachs à avoir coaché le plus de matchs en NBA avec plus de 935 victoires pour Dick Motta, qui est toujours vivant. Et donc, dans les années 70, c'est aussi le recordman des fautes techniques dans cette décennie-là. Il en a pris près de 400.
Le coach.
Et Dick Motta a eu cette phrase dont la paternité est un petit peu en discussion. Nous sommes en finale de conférence contre les Spurs. Les Spurs mènent 1-0. Et là, il y a un commentateur des Spurs qui sort cette phrase. Et Dick Motta l'a ensuite ressorti parce que Washington a gagné cette série 4-2. Et cette phrase... The opera ain't over until the fat lady sings. C'est l'équivalent chez nous. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Alors je vous fais la traduction. C'est l'opéra n'est pas fini jusqu'à ce que la dame corpulente finisse de chanter. Et donc c'était Monsieur Bonmot, Dick Motta, et donc il a gardé cette phrase tout au long. Et dans cette équipe, on retrouve le leader, c'est Elvin Hayes, épaulé par Wes Unseld.
Voilà des noms qu'on connaît.
Unseld, on connaît, ouais.
Unseld, deux, oui. Pourquoi tu le connais, Wes Unseld ? Parce qu'en 1969, il est drafté, il est rookie de l'année 69 et MVP égalant un certain Wilt Chamberlain.
Sérieux, là ?
Il retrouve Seattle en finale. Pourquoi ? Parce que Portland, qui a fait une super saison en 50-10, met l'ami Bill Walton MVP est blessé. Il n'est donc pas là, donc out Portland. C'est donc Seattle qui arrive. Et là, ça va aller en 7 matchs. C'est hyper serré. Après le match 4, on est à 2-2. Match 5 à Seattle. Et là, les droits, c'est CBS qui a les droits. Écoutez l'intro de l'époque. On voit qu'on est bien dans les années 70.
He's known as the Big E, Elvin Hayes of the Washington Bullets, and he's hitting better than 50% from the floor in this NBA Championship Series. And the young, talented center of the Seattle Supersonics, Marvin Webster, is the leading rebounder, pulling down more than 13 a game. They'll be matched. It's game five.
Oh yeah! En prévant le Big E, Elvin Hayes, 21 points, 12 rebonds sur la finale. En face, le jeune Marvin Webster, le meilleur rebondeur de Seattle. Finalement, alors Seattle va gagner le match 5, mener 3-2, mais Washington va tout renverser, va aller gagner le match 7 dans l'état de Washington. Pour Washington, c'est Bob Dandridge, autre joueur important de cette équipe, 19 points. Sachez qu'on précise qu'à l'époque, la ligne à 3 points n'existe pas. On est sur une NBA vraiment old school qui vient de fusionner avec l'ABA, comme a dit Félix. Unseld figure dans l'équipe NBA des 75 ans, alors qu'il était qu'à 8 points et 13 rebonds, mais son surnom... C'était l'incroyable Hulk. Il est fini MVP des finales alors qu'il n'est pas du tout le meilleur marqueur de sa formation. Mais ils avaient une raquette monumentale. Wes Unseld, d'ailleurs son fils Wes Unseld Jr. était coach des Wizards il y a 2 ans. On a changé en 97 parce qu'on voulait plus avoir les bullets qui rappellent une arme. Donc Washington est devenu les Wizards. C'est un peu bête quand on sait que Gilbert Arenas a joué pour cette franchise après. Ça aurait collé. Donc voilà pour ce titre des Washington Wizards qui fera... Finale perdue contre Seattle l'année d'après. Unseld est dans l'équipe NBA des 75 ans, Hall of Famer, tout comme Elvin Hayes.
Et depuis, qu'est-ce qu'il y a eu comme période intéressante pour les Wizards ?
Alors, aucune, parce que tu sais que...
Jamison, c'était correct, mais ça n'a pas fait non plus...
Avec John Wall, mais bon, ils ont fait John juste Wall, un tour de play-off.
Avec Paul Pierce, là, quand il y avait John Wall, Paul Pierce, Bradley Beal...
Mais bon, c'est jamais
genre
trop
2015,
loin.
Ils passent des tours.
C'est jamais les trop loin. Il y a Carmelo aussi à un moment. Je sais pas si c'est cette. Il y a pas Carmelo.
Carmelo Wizards.
Non, je confonds. Ouais. Je confonds. Et juste 79, c'est la dernière saison à plus de 50 victoires pour les Wizards depuis. Rien.
La tristesse.
Très bien. Voilà pourquoi c'est important de parler de temps en temps de ces franchises. Et donc on va finir avec.
C'est des belles années pour Fred, 77, 78.
On connaît mieux l'histoire de Cleveland 2016 et pourquoi as-tu choisi de nous parler du titre de Cleveland avec LeBron.
Ben en fait, quand ils m'ont parlé de 77, 78, je me suis dit...
Que t'as connu ?
Je vais essayer de regarder une franchise qui, en 76, pouvait faire des trucs, une finale de conf, qu'ils ont perdu contre Boston. Mais Cleveland, quand LeBron arrive en 2003, le premier tour de draft, tu te dis, allez, ça y est, on va enfin changer, on va changer cette lose, parce qu'eux n'avaient jamais gagné. Je te dis, mis à part cette finale de NBA... Finale de conf, pardon, contre Boston, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des conférences.
Une franchise qui ne comptait pas.
C'est une franchise qui n'avait aucune importance. Et effectivement, quand tu draftes le numéro 1, quand c'est LeBron, quand tu as un joueur de ce calibre-là, bah, tu vas commencer à te prendre à rêver. Ils vont se prendre à rêver. Ils vont arriver jusqu'à une finale perdue contre San Antonio, 4-0. Et après, The Decision et un passage à Miami, avec les Tres Amigos, soldé par deux titres pour LeBron, 2012-2013. Bah, LeBron va revenir. Il va revenir, même si Dan Gilbert dit... disait que les Caps pouvaient gagner sans lui, ils sont bien contents. Ouais. Du côté de Cleveland, que LeBron revienne.
Si un mec a eu un impact sur une franchise, c'est bien lui à Cleveland.
Et, évidemment, et donc ça va bien se passer d'entrée. Ils vont faire une finale contre Golden State. Ils vont même mener 2-1, après ils perdront les trois matchs suivants. En 2015-2016, les Caps sont menés 3-1. Match 5, LeBron et Kyrie, qui jouent ensemble à cette époque-là, vont marquer 82 points à eux deux. Donc ça veut dire que, clairement, ils étaient motivés. Ensuite, à la maison, ils égaliseront à 3-3. Et match 7, à l'Oracle Arena, tout le monde se dit, logiquement, Golden State va gagner. Maintenant, on n'avait jamais vu une équipe revenir d'un 3-1. Et donc le match est quasiment égalité, il reste une minute. Et là, LeBron va faire une des actions défensives les plus importantes de l'histoire, un compte sur André Iguodala.
Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection.
On parle beaucoup du compte de Nico Batum, celui-là était aussi extrêmement impressionnant. Dans la foulée, Kyrie Irving va mettre un panier à 3 points et cette équipe de Cleveland va gagner son premier titre. Un premier titre pour les Cavs, mais surtout à LeBron racheté, qui va tenter encore un petit peu de jouer. Il va jouer deux fois une finale contre Golden State après. C'est-à-dire qu'il va perdre la première 4-1, il va perdre la deuxième 4-0.
Et KD qui est revenu après.
Et oui, en plus. Donc ça devenait vraiment compliqué. Et là, LeBron va partir à Los Angeles. Et en fait, j'ai voulu choisir cette histoire parce que déjà, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans. Bon, pour moi, ça paraissait beaucoup plus proche. Et en plus, on parle de plus en plus de voir LeBron retourner aux Cavs pour essayer de finir l'histoire. Et j'aimerais voir ça.
Mais clairement, sa carrière ne serait pas la même sans ce titre.
Mais ce titre change tout à sa carrière. Parce que le titre des 13 Amigos, ok, c'est cool, mais c'était une très bonne équipe.
Los Angeles, la bulle.
Et on veut dire même comment ils font pour ne pas gagner plus, en fait, finalement, cette équipe. Los Angeles, la bulle, c'était après. Donc, pour moi, ça a moins d'importance, mais c'est vrai que ce retour aux sources, le fait de ramener un titre dans cette franchise, dans
c'était
cet état...
C'était l'élu, mais c'était l'élu pour Cleveland, sinon exactement. Ça ne devrait pas...
Et surtout dans cet état qui n'avait jamais gagné aucun titre majeur. Donc c'était quand même quelque chose d'incroyable,
d'exceptionnel. Capable de conjurer un tel mauvais sort, c'était un grand champion.
Mener 3 en 2 tu ne peux pas le faire. C'est le plus beau titre pour l'instant NBA du 21e siècle.
Ben oui, bien sûr.
Ah oui.
Les Raptors, non ?
Les Raptors, c'est beau aussi, mais... Mais LeBron,
non, c'est... Ouais, 2016, il y a tout l'histoire.
Le déficit de 3-1, le match, le contre. Kyrie qui cross Curry, ouais. Qui va te mettre à 3 points.
L'adversaire, les Warriors qui étaient en dynastie, tu vois, genre c'est, tout est parfait.
Les Warriors qui étaient à deux doigts de gagner et qui auraient pu enchaîner 4 titres de suite, quand même. Hein.
Tout à fait.
Et en plus, ça a amené après, du coup, Kevin Durant qui signe juste derrière.
Toute l'histoire de la NBA a été chamboulée.
Très bien. C'est le moment le plus important de l'histoire de l'NBA que vient de nous raconter Fred, peut-être.
Peut-être.
Non, l'histoire récente, allez.
L'histoire de l'NBA, pas loin, franchement.
LeBron James, c'est lui tout seul, l'histoire de l'NBA.
Pas loin, parce qu'effectivement, t'as un enchaînement avec KD qui va là-bas. Donc ça change quand même aussi l'image de la NBA. Enfin,
c'était un excellent choix.
Et on se souvient du Cleveland, this is for you.
Ah, il le fait pas mal, Arnaud. Hein. Allez, on finit par le quiz. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Ah, le mec sauce sa question. Ah, c'est
intéressant. T'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Magic ou Curry, ça pourrait être un choix de sauce dans un restaurant de burger.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler.
Oh, pardon. Alors.
En fait, t'es pas gentil avec moi. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue. Non, dans la rue, beaucoup de gens m'arrêtent
pour tirer le meilleur de toi.
Pourquoi Pierre Dorian t'en veut autant et pourquoi il est aussi il est aussi gentil et c'est pas vraiment la
question
qu'il devrait se poser avec Stephen.
Pourquoi est-ce que tu penses que je suis pas gentil avec toi?
Mais moi je le pense pas, c'est les gens qui me disent.
C'est exactement les propos de Charles Barkley qui a dit un grand coach hurle aussi sur ses stars. Voilà, c'est le cas.
Moi je pense qu'il faut faire sortir le meilleur de toi parfois par la provocation. C'est la seule réponse que j'ai à te donner.
J'ai eu énormément de peine.
Alors, donc, c'est un spécial Denver Nuggets. Et comme la production musicale de la ville de Denver, c'est pas foufou, pour démarrer avec un petit blind test, eh bien, c'est le thème de l'or, d'accord ? Les Nuggets, les pépites d'or. Donc, dans les 4 extraits qui arrivent, il y a un rapport avec l'or, soit dans le titre, soit...
On doit donner le titre ou
paroles,
l'interprète ?
Soit dans l'interprète. Il faut toujours donner l'interprète, toujours, un blind test. Allez, premier extrait.
GoldenEye, Tina Turner.
Tina Turner, absolument. Tu l'avais, ça ?
Je l'avais, évidemment, je l'avais.
Allez, deuxième extrait.
Once there was a way.
Cette voix, vous la connaissez.
To get back home.
Paul McCartney.
Donc
Beatles.
Ah, simultané. Elle a vraiment simultané. Tu as fait une belle passe d'ess. Donc,
je pensais qu'il était tout seul.
Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, regarde, on va enlever un point à Félix parce que sinon c'est pas juste.
Ouais, moi j'aime bien. Enlever des points à Félix, c'est un peu mon kiff.
Bah oui, parce que
vous avez rien demandé, pauvre.
Bah si vous avez tous les deux la bonne réponse, on peut pas annuler et sinon il est trop avantagé, Félix. Il avait pas la bonne réponse.
Tu mets un point ou deux.
Bah oui, tu mets un point ou deux.
Non, je mets moins.
Imagine, moi je finis dans le négatif la fin du quiz. Imagine la honte.
Ouais, c'est pas très grave.
Troisième extrait.
Gold, capitaine abandonné.
Oh le mec. Attention, je pense que c'est son hit numéro 1 soirée là.
Le mec, comment t'as pu reconnaître ça aussi vite,
mec? Comment t'as fait?
En fait, j'y pensais au début du quiz. Est-ce qu'il va nous sortir du gold?
Ah, mais c'est dingue. Ouais, mais là, aussi vite, bravo.
Les blind tests.
Ça en dit très long sur toi et c'est un peu triste. Ouais,
bon. Allez, dernier extrait. D'ailleurs, c'était Gold, mais
Daft Punk. C'est Gold Digger. C'est la chanson, non?
Oui, exactement.
Mais je sais plus.
Qui chante ça?
Je sais plus.
Oh, tu as trouvé?
Non. Je connais cette chanson. That digs on me.
Ouais. Donc c'est bon, Félix, ça annule ton point de retard.
Tu vois, c'est bien.
C'était un peu plus près des étoiles, mais comme t'as dit Gold, là, c'est Gold, c'est bon. Hein. Allez, donc on passe avant le basket, la culture générale. Donc c'est pareil. Hein. Je suis allé chercher un truc un peu chelou.
Ça m'étonne.
Les Kentucky Fried Chicken, ok? Les nuggets, mais de poulet cette fois-ci. On va juste faire un petit vrai ou faux sur le KFC, ok? Alors, Arnaud Valadon, KFC a été créé avant McDo.
C'est vrai.
C'est vrai. 1939. Félix, l'apport calorique du bucket de nuggets est supérieur à la moitié des besoins quotidiens d'un homme d'1m80 et 75 kilos.
Mais combien le bucket? Combien de pièces?
Je sais pas, je connais pas moi les menus, mais apparemment il y a un bucket entier, ouais, le plus gros bucket à partager.
Donc ça voudrait dire plus de 1000 calories, c'est ça?
C'est ce que ça voudrait dire, ouais, effectivement. C'est ce que ça voudrait dire.
Si, c'est ça, c'est vrai.
C'est vrai aussi, ouais.
Bah oui.
Jusqu'à 1200 calories.
Ouais. Moi, je connais pas un mec de 80-75 kilos, je ne connais pas du tout, c'est ma jambe droite, ça.
Ouais, je suis d'accord, mais tu n'es pas vraiment dans les normes, comment dire, classiques.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, toi, tu peux le manger, peut-être, le bucket. Et enfin, le siège de KFC se situe dans le Kentucky.
Pas du tout.
Comme son nom l'indique, c'est faux, mais pas depuis longtemps, puisqu'ils ont déménagé au Texas seulement l'an dernier. Avant, ils étaient dans le Kentucky.
Donc Texas Fried Chicken, ça s'appelle maintenant.
Bah, KFC.
Toujours le KFC. Allez, on passe au basket. Quel ancien joueur de Denver dans les années 70 a été entraîneur des Nets,
English,
des Spurs,
English,
des Clippers, des Pacers, des Sixers, des Pistons, des Knicks et même des Bobcats jusqu'en 2020.
Isaiah Thomas, non.
Pas Danny Sol.
Un grand coach, hein.
Pas George Karl, non.
Non.
Tu peux répéter
si. Donc, joueur de Denver dans les années 70, ensuite coach de Denver, mais ensuite des Nets, des Spurs, des Clippers, des Pacers, des Sixers, des Pistons, des Knicks et des Bobcats. Jusqu'en 2000.
Knicks, Bobcats.
Les Knicks.
Attends.
Larry Brown.
Mmh. Ah bah oui.
Je pensais que vous alliez trouver très vite.
Il va être consultant équipe de France aussi. Hein.
On va. C'est vrai, j'aurais peut-être pu et peut-être ça vous aurait permis de trouver, mais je ne savais pas donc je ne l'ai pas mis. Voilà. On va réviser la saison 2023, celle du titre des Nuggets. Attention, ça peut aller vite. Qui termine premier à l'Est?
Philadelphie.
Boston?
Non. Non.
Attends.
New York?
Non.
Les 23.
Et quand vous allez trouver sur Milwaukee. Ah bah oui, Milwaukee, exactement, oui. Félix.
Eh bah oui.
Eh bah oui. Premier tour face à Miami, c'était quand même une saison de fou. Miami, ils avaient fait un truc incroyable. Ouais, ouais. Ensuite, qui termine meilleur marqueur?
Joel Embiid,
absolument, 33 points. Qui termine meilleur passeur?
Jokic?
Non.
Vandevliet?
Comment?
Vandevliet?
Lucas?
Non.
Trae Young? Ouais.
Non.
Passeur.
C'est pareil, hein. Quand vous allez trouver, vous allez dire ah oui, c'est vrai, c'est lui.
Liberton.
Je pense même qu'il faisait des passes à Embiid.
Chris Paul. Non. Attends, c'était qui?
Vous avez déjà oublié. C'est fou comme ça passe vite. Hein,
Harden.
Harden, bah oui.
J'aime ça.
Oui.
Ensuite.
Là, ça passe vite, c'est vrai.
Et tu te rends compte? C'était que 2023.
T'as vu comme quoi les statistiques finalement?
Ouais, on s'en fout. Hein. Maintenant, vous allez me donner chacun votre tour un membre de la NBA First Team. Ok, donc 2023, Fred, tu commences. C'est toi qui as le moins de points.
Jokic.
Et bah, il n'y est pas. Arnaud.
Embiid.
Il n'est pas dans l'NBA First
Team. Non, puisqu'il y a Embiid.
Ah oui, mais à l'époque, il y avait les positions encore. Ouais.
Ensuite, Félix, déjà Giannis. Les positions, ils se sont bien arrangés, je peux te dire. Giannis, c'est bon. Ouais. Fred.
Lucas.
C'est bon.
Il n'est pas éliminé ?
Non. À toi.
Non, tu rates Arnaud. Et tu continues.
Booker.
Non.
Il en reste un, du coup, là.
Non,
deux.
Non, il en reste deux.
Sur la First Team. Mm. Attends, 2023, il y a Tatum.
Oui, bravo.
Et merde, je l'avais celui-là.
Fred,
ah, tu vois
il en reste un.
Il n'y avait pas Jaylen Brown.
Pas Jaylen Brown, non.
Mais il est MVP et final.
Donc, Luka, Giannis, Tatum, Embiid. Et c'est un arrière.
Kelly.
Non, c'est pas KD. Tu l'as, Arnaud ?
Un arrière. Harden ?
Non.
Booker ?
Non. Brandon. C'est Shai.
C'est Shai. Ah, déjà ?
Déjà, ouais.
En compte, il n'y a ni Jokic ni Butler. C'est-à-dire les deux meilleurs joueurs des équipes finalistes. Donc, le point sur les scores. 6 points pour Félix, 4 pour Arnaud, 2 pour Fred. On devine, et là, c'est devenu un classique du quiz, un joueur de l'effectif des Nuggets avec un seul indice. On démarre avec Arnaud. Je joue à Denver et à Liverpool.
À Denver et à Liverpool.
Ouais, il ne joue pas beaucoup à Denver. Hein. Je le dis tout de suite. Tu l'as pas.
Attends. Non, je veux dire Allison, mais.
Curtis Jones.
Ah.
Félix, deuxième option des Nuggets pendant la longue absence de Jokic cette saison.
C'est-à-dire deuxième option, deuxième.
Offensive.
Deuxième meilleur marqueur, quoi. Ah, j'hésite entre Peyton Watson et Christian Brown et je vais partir sur. Allez, Peyton Watson.
Ah oui, évidemment.
Christian Brown était blessé.
Il était blessé.
En même temps.
Ouais. Et enfin, drafté sur le tard à 23 ans par Minnesota en 2019, Fred. 23 ans.
Joueur d'impact.
Ah oui. Joueur important, oui.
Gordon.
Cam Johnson.
Cam Johnson, ok, ça va.
Il a déjà. Il est vieux en fait, ouais. Cap Johnson.
Mais c'est comme,
C'est pas
les Suns qui le draftent.
Alors, il est drafté par Minnesota, mais il n'a pas joué à Minnesota. Ensuite, nous allons réviser nos joueurs serbes. Ok, on devine un joueur serbe, un grand joueur. Hein. À chaque fois, je ne suis pas allé chercher des mecs inconnus. Hein. Allez, c'est parti pour le premier. 7 fois meilleur marqueur du championnat yougoslave. 147, c'est
le premier.
Non.
Ni l'un ni l'autre. Décédé dans un accident de voiture le 2 juin 1969.
C'est super facile.
J'ai inscrit 99 points lors d'un match de Coupe d'Europe en 1964.
Et c'est lui, il est mort.
Radivoj Korać, c'était l'indice, bien sûr, ultime. J'ai donné mon nom à une compétition. C'est Arnaud, bravo Arnaud. Je ne savais pas que ce mec, c'est une légende comme ça. Du basket yougoslave. 99 points, il a mis. Hein.
C'est beau.
Alors, ensuite, deuxième joueur serbe à trouver. Un des premiers européens de la NBA.
Bonjour,
je suis dans la First Rookie Team pour ma première saison 90.
Petrovic.
Je perds une finale de NBA contre
Divac.
Les Bulls de Jordan.
Vladi
Divac. Arnaud, il est bon sur les Serbes. Hein. Et troisième joueur serbe à trouver. Joueur techniquement au-dessus du lot, capable de jouer du 1 au 4.
Bodiroga. C'est la mer noire.
C'est la mer noire.
J'aurais dû le dire.
Ensuite, pour quelle raison les Nuggets d'Alex English dans les années 80 se sont-ils mis à jouer sur un rythme effréné ? Il y a une raison précise à ça.
C'est un coach serbe ?
Non.
Parce qu'ils ont voulu éviter les Lakers ?
Non.
Avec un rythme.
Ça aurait pu, mais c'est pas ça.
Il y a la ligne à 3 points ?
Non.
Tu avais un shooter serbe ?
Non.
C'est un rapport avec la Serbie ou pas du tout ?
C'est un rapport avec Denver. Aucun rapport avec la Serbie.
Ah, pour l'altitude.
Pour l'altitude.
Pour réfugier les asphyxiés.
Mile High City. Ouais.
Donc il paraît que c'est le déplacement le plus compliqué.
Ouais. Dans tous les sports, foot US aussi.
Donc 8 points pour Félix, 6 pour Arnaud et 3 pour Fred. Donc avant de terminer, on va faire Nikola Jokic, Nikola Jovic, les deux ou aucun des deux. Ok, on démarre avec Fred. Je n'ai connu qu'une seule franchise.
Les deux.
Les deux, absolument. Jovic a joué qu'à Miami. Arnaud, j'ai joué à Mega Basket.
Les deux.
Bravo Arnaud. Nous avons ensuite pour Félix. Je suis médaillé d'argent olympique.
Je revois pas Jovic en 2024, donc je dirais que Jokic.
Et deux.
Bravo.
Non oui.
Que Jokic. Ouais.
Mais il s'est pas blessé, Jovic, avant.
Jovic, il s'est blessé. Moi, je le vois.
Je crois qu'il n'est pas allé, il est blessé.
Ouais, non, moi, je le vois pas, justement,
en
2024.
Jovic, médaillé de bronze en 2000.
La Coupe du Monde.
Ouais. 24. Donc, c'est Jokic, c'est en 2016. Hein, donc, tu as la bonne réponse avec, en ayant un mauvais raisonnement. Bravo
ça,
à toi.
Ça compte quand même.
Bravo à toi.
Je voudrais qu'on parlait des JO.
Oui, des JO, oui.
Jokic est là.
Toi, c'est quoi ta question?
C'est Jokic.
Oui.
Ok. Et
Jovic n'est pas médaillé de bronze?
Jovic est médaillé de bronze. La question est, je suis médaillé d'argent olympique. Voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde. Alors, on continue avec Fred.
C'est Arnaud qui m'embrouille.
J'ai été dans le 5 majeur de la Coupe du Monde U19. C'est dur.
Jovic.
Et bravo. Évidemment. Voilà. En 2013, il n'y a que Misic qui est pour la Serbie. Il n'y a pas de Jokic. Elle est belle. Il est beau le 5 majeur U19 de 2000, je ne sais pas combien d'ailleurs. Il y a Wemby, Holmgren, Ivy, ouais. Zakidi et Jovic.
Bon, Ivy, c'est...
Ouais. Bon, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Ensuite, on arrive à qui là? À Arnaud. J'ai été drafté pendant une pub Taco Bell.
Bah, c'est Jokic.
Évidemment.
Mais ça, c'était trop facile, ça.
Ah oui bah, c'est de la chance.
Ça se provoque, la réussite.
Et enfin, Félix... J'ai joué avec Nemanja Bjelica en sélection et en NBA. Oui, c'est de la chance.
Bah, Bjelica, je ne le vois pas à Miami. Je crois qu'il a joué... Attends, mais il n'a pas joué non plus à Denver, donc je ne dirais aucun des deux.
Alors, encore une fois, tu as le point en faisant un mauvais raisonnement, et ça, c'est très fort. Donc, aucun des deux, et pourtant, il a joué à Miami. Juste en 2021, mais donc ouais, il n'y avait pas encore Jovic.
Il y a longtemps.
Alors 9 points pour Félix, 8 points pour Arnaud et 5 points pour Fred. Avant la question Mesmer, un petit point cadeau comme ça. Qui a la troisième meilleure moyenne de points cette saison à Denver derrière Jokic et Murray?
Watson?
Brown?
Non.
Gordon?
Non.
Cam Johnson?
Non. Christian Brown?
Hardaway.
Hardaway.
Allez, question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, ah, putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
J'ai pas vu, c'est pas vrai.
T'as trouvé ça où, toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Voici la question Mesmer.
Avec RMC.
Qui est le plus fort dans son sport? Nikola Jokic ou Novak Djokovic? C'est bon?
Mm-hmm. Oui.
Arnaud.
Pour moi, c'est Nikola Jokic parce que, comme on l'a dit durant ce débat et ce podcast, il fait des choses tout simplement extraordinaires. Alors, je ne dis pas que Djokovic n'en a pas fait, même si, in fine, c'est lui qui a le plus de titres et les titres, ça compte. Mais Jokic est véritablement un extraterrestre parce qu'il fait des choses que personne ne fait. Djokovic, c'est aussi une force mentale. Donc, est-ce que tu considères que c'est plus fort, mais... Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect aussi esthétique et le tennis c'est que toi, c'est individuel, mais la façon dont Jokic, par ses performances individuelles, se rend tellement indispensable
c'est
à son collectif,
long.
Il fait tout.
Donc,
j'en peux plus, je sais même plus de quoi il parlait là.
J'ai noté Jokic, Félix.
Jokic parce que Djokovic serait plutôt Shai Gilgeous-Alexander dans ce côté un petit peu très fort, mais dans ce côté un petit peu robot qui fait tous les fondamentaux parfaits. Là où Jokic est un artiste, un joueur extraordinaire qu'on ne voit jamais. Donc voilà.
Jokic et Fred.
Je ne veux plus faire de podcast avec ces deux-là, déjà. C'est vraiment important de le dire, parce qu'ils parlent beaucoup trop, surtout Arnaud.
Je fais vachement trop, Arnaud, je fais 10 secondes, là.
Et donc, pour moi, c'est Djoko. Parce que c'est, les titres, c'est le plus important dans le sport. Donc, en termes de titres, c'est un immense tennisman, et de l'autre côté, la longévité en plus.
Donc, je pense qu'un jour, tu auras le point Mesmer ou pas.
Ben, si à un moment, tu comprends rien au sport, je ne peux rien faire pour toi.
Écoute, j'avais fait une première question qui était la suivante. Qui est le plus grand champion? Et là, je me suis dit non, parce que le plus grand champion, c'est Djoko. Et c'est assez évident.
Oui.
Raison pour laquelle j'ai posé la question qui est le plus fort dans son sport. Et pour moi, c'est Nikola Jokic. Parce qu'il fait encore
plus. Tu te rappelles que Djoko, il est arrivé quand il y avait les deux énormes et qu'il a quand même fait sa place et qu'il a quand même.
Tu vois, Federer et Nadal ont des trucs qu'il n'a pas, même si lui est peut-être considéré comme le meilleur des trois, hein, par beaucoup. Mais je pense que des choses que Jokic a envie à un autre basketteur, j'en vois pas. Peut-être un peu de jump. Quoi,
la défense, une défense un peu peut-être.
Donc je suis désolé, encore une fois, je ne peux pas te donner le point. Ça fait 9
de démarrer.
Vraiment, vraiment, je tiens à dire, et je m'en excuse auprès de tout le monde, ceux qui nous écoutent, vraiment, c'est des raisonnements de merde, putain.
Allez, question multipoint. Vous allez me donner les starters de la finale 2023. Je vous donne juste une indication. Il y en a 5 à Denver, mais il y en a 8. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Je crois qu'il y en a 7, c'est pas grave. À Miami. Ok. Allez, c'est parti, Fred. Starter, finale de ville.
Jamal Murray. Et dépêchez-vous de répondre.
Ok. Allez, dépêchez-vous. Arnaud, dépêche-toi.
Bam Adebayo.
Bam Adebayo. Félix.
Nikola Jokic.
Jokic. Fred.
Christian Brown.
Non. Arnaud.
Il n'est pas starter,
il
justement.
Il n'est même pas encore arrivé.
Non, il n'est pas encore là.
Voilà. Mais bien sûr que si, Christian Brown, il y est.
Non, 2023, ouais, en tout cas, il n'est pas starter. Je pense qu'il n'est pas arrivé.
Mais alors, je vais vous parler tout ce que vous voulez qu'il ait arrivé parce qu'il a gagné.
Il n'est pas starter.
Ben ouais, ok. Mais donc, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Mais c'est pas la bonne réponse. Arnaud.
Aaron Gordon.
Gordon. Félix.
Porter Junior.
C'est bon. Fred.
Je sais pas.
Si. Si, si. Non, là, tu es énervé, mais tu sais.
Bruce Brown.
Non.
Il n'y a pas de Brown.
Non, il n'y a pas de Brown. Arnaud.
Tyler Herro.
Non.
Hein?
Non.
Jimmy Butler.
Jimmy Butler. Voilà. Tu vois que tu savais. Fred. À toi.
Je sais pas.
D'accord. Arnaud.
Il n'y a pas Tyler Herro qui start. Alors c'est qui les guards?
Franchement, ils sont. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait hein, avec cette équipe-là. Alors, il y en a un qui est à Cleveland. Il y en a un, je ne sais même plus où il est. Il y en a un, je crois, qui doit être.
Bah, je l'ai, j'en ai un autre.
Max Strauss.
Voilà.
Duncan Robinson.
Non. Et puis, vous ne m'avez pas donné le cinquième Denver.
Aaron Wiggins, non.
Alors, on va arrêter là, je pense, non?
Oui.
Alors,
attends, à Denver.
Il y avait Caldwell Pope.
Ah, KCP, mais oui.
Gabe Vincent. Kevin Love.
Ah, oui.
Et Caleb Martin.
Caleb Martin, je l'avais.
Je pense que c'est un des plus grands exploits de l'histoire de la NBA,
quand
même.
C'est
Miami.
Beau.
À la semaine prochaine, victoire de Félix.
RMC. Basket Time.